Vous écoutez France Culture.
D'abord que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Une galerie, c'est un commerce. Celui qui le tient est le galeriste. Nom assez récent d'ailleurs, le Grand Robert en 8 volumes ne le donne pas. Dans le milieu, on dit avec moins de complexe un marchand d'art, comme dans le tableau de Watteau, l'enseigne de Gersin. En 1720, Edme François Gersin était un marchand de tableaux dont la galerie ne pouvait pas s'appeler galerie, si une galerie est un lieu de passage. C'était une toute petite boutique située sur le pont Notre-Dame à Paris. Il a demandé à Watteau de lui peindre une enseigne, et cette enseigne peinte a été accrochée une quinzaine de jours à l'extérieur, avec un tel succès qu'il est rentré dans la boutique, de là dans des collections, puis dans un grand musée. Ce qu'on avait traité avec légèreté est devenu ce grand tableau, aujourd'hui dans les collections du château de Charlottenbourg à Berlin. Le public, qui est distrait et peu curieux, s'arrête parfois sur quelque chose de bon et reconnaît que c'est bon. Et alors, ça emporte tout, universitaires pincés, spécialistes claniques, journalistes paresseux, qui sont obligés de reconnaître la qualité de l'œuvre. Les galeries sont un étrange commerce. Il est ouvert au public, mais d'une certaine façon, il est indifférent au public. Une galerie vit par des collectionneurs. Ils ne sont pas dans la rue. D'ailleurs, l'amusant, c'est que, à part les soirs de vernissage, les galeries sont souvent vides. On y entre avec hésitation, cela n'a pas tellement l'air fait pour nous, les murs sont blancs, il y a peu d'œuvres. Derrière un bureau ou un comptoir se tient un très beau jeune homme excessivement bien habillé ou une très jolie jeune fille excessivement rêveuse. Ni l'un ni l'autre ne sont le galeriste. Le galeriste est derrière ou à l'étage, dans son bureau, et beaucoup moins rêveur, moins élégamment habillé, il est trop chic. Il s'occupe de téléphoner à Dubaï ou dans un village de 100 habitants dans les Pouilles. Dans un de ces deux endroits se trouve un artiste, dans l'autre un collectionneur. Il n'est pas sûr que l'artiste soit aussi pauvre que son village, il n'est pas sûr que le collectionneur soit aussi inculte que le nom de Dubaï joint au préjugé qu'Onana le laisse supposer. Quel est le secret professionnel d'un grand galeriste? Je reçois pour en parler un des plus importants marchands d'art actuels, Tadeusz Ropak, qui, basé à Salzbourg en Autriche, a ouvert deux galeries à Paris. Tadeusz Ropak, je crois que vous avez ouvert votre galerie de Salzbourg en 1983, après 30 ans d'expérience. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est facile de vendre de l'art contemporain à Salzbourg? C'est la ville du grand écrivain Thomas Bernhard qui a passé son enfance et son adolescence. Et si on l'écoute, il n'y a pas plus conservateur et réactionnaire qu'un Salzbourgeois.
That's a lot of clichés to speak about.
C'est tout un paquet de clichés là qu'il faut défaire. Salzbourg est une petite ville, mais culturellement elle joue un grand rôle. C'est l'endroit où Mozart est né, et la musique est toujours quelque chose qui joue un rôle incroyable pour beaucoup de gens du monde international qui y viennent. Vous savez, c'est grâce à la musique que Salzbourg est passé au XXe siècle. Beaucoup d'interprétations extraordinaires avec des nouveaux chefs d'orchestre, et ça a créé un groupe de gens qui ont suivi et qui sont intéressés par l'art, la musique et la représentation du XXe siècle, à part le siècle dernier. Mais c'était un défi d'y ouvrir une galerie d'art contemporain. Et quand j'ai décidé d'aller à Salzbourg, c'était Oskar Kokoschka qui a fondé l'Académie de Salzbourg. Et pour moi, c'était le grand visionnaire.
Pardonnez-moi, vous n'êtes pas de Salzbourg vous-même?
Non.
Je suis né au sud de l'Autriche, je suis allé à l'école à Vienne et je voulais devenir artiste. Je suis allé en Allemagne, rencontrer Joseph Beuys et avoir ma première expérience vraiment à proximité d'un tel artiste. J'ai senti que mon propre talent n'était pas dans la création de l'art, mais à travailler avec de grands artistes. À ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir une galerie et de revenir en Autriche. Pourquoi Salzbourg? Eh bien parce que Kokoschka y avait ouvert son académie et il y avait un sentiment semblable, peut-être un petit peu plus conservateur que Beuys, mais il croyait à une académie ouverte, une académie libre, gratuite. Il a écrit un petit livre qui s'appelait « L'école du regard » et qui s'occupait de l'idée du fait que tout le monde a la possibilité de devenir un artiste. Tout le monde a la capacité de comprendre l'art. Et c'est ce qui m'a mené à arriver dans ce petit endroit. Et quand j'ai ouvert mon endroit, j'ai été surpris par sa petitesse, son sentiment de conservatisme. Mais il y avait de la curiosité là-bas.
Et
l'Autriche et l'Allemagne du Sud. Munich n'est pas tellement loin. Et donc, il y a une grande tradition de collection et de regarder l'art contemporain. Donc, ce n'était pas un endroit où il était impossible de créer un environnement qui fonctionnerait pour présenter de nouveaux artistes, des artistes avec un défi, de présenter des jeunes artistes également.
Est-ce que c'était difficile de se dire que vous aviez, qu'on doit renoncer à l'ambition d'être artiste pour devenir, pour dire qu'on va transmettre les œuvres d'art des autres? Est-ce que c'était...
À l'époque, j'étais très jeune. Grâce à Joseph Beuys, j'ai pu rencontrer Andy Warhol à New York. Et par Andy Warhol, j'ai rencontré une génération de très jeunes artistes qui étaient totalement inconnus en Europe. Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Mapplethorpe, des générations d'artistes qui avaient mon âge. Vous avez tout juste 20 ans. Et d'approcher ces artistes, de leur dire que j'aimerais travailler avec eux en Autriche et pas à Vienne, mais à Salzbourg, ça c'était un défi. Parce que pour eux, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas grand-chose. Et c'était un risque pour eux. Mais ils étaient jeunes, pas encore très célèbres. Et d'une certaine manière, ce n'était pas difficile de partager ce risque avec eux. Ils n'étaient pas tellement exigeants non plus. À l'époque, et pendant ces 30 années, j'ai vu le monde de l'art passer d'une tour d'ivoire, un certain élitisme, vers quelque chose de central dans la vie. J'ai vu comment ça a changé. Il y a peu de décennies qui aient autant changé la scène de l'art que celle-là. Ça a changé le monde de l'art. C'est devenu quelque chose qui aujourd'hui... vous savez, les jeunes d'aujourd'hui vivent avec l'art contemporain, ça fait partie de leur vie. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il y avait très très peu de centres d'art. Bien sûr, Paris était un centre artistique.
Paris
un peu ralenti. New York a beaucoup monté. Il y avait Cologne en Allemagne qui est devenu très très important comme endroit. Londres était endormi et s'est réveillé plus tard avec cette nouvelle génération de jeunes artistes.
Les grandes foires n'existent pas comme la FIAC.
FIAC existed, of course. You know, it was one of the very few fairs.
Oui, oui, c'était une des seules foires qui avait une certaine importance. Il y en avait une à Cologne et à Bâle, et puis c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait à peine quelque chose dans les États-Unis, et finalement rien en Asie.
Alors, vous avez ouvert en France en 1990, je crois. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé, alors que vous étiez à New York et que vous ayez, puisque vous connaissiez Basquiat et ces gens-là, vous auriez pu vous établir là-bas. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre deuxième galerie, en Europe d'abord et à Paris en particulier?
First of all, I'm very European.
Tout d'abord, je suis très européen. Je crois à l'Europe. Je travaillais avec beaucoup d'artistes américains et j'ai senti que mon travail, mon devoir, était de présenter leur travail en Europe. Je voulais donc construire une base européenne très importante. Aller à Berlin ou à Vienne, ça n'aurait pas grand sens pour moi parce que j'étais déjà très lié au monde de l'art germanophone. Paris, c'était ce fantasme pour moi. C'était vraiment un des lieux les plus importants pour les artistes dans leur vision, leur donner un espace de travail, développer leur vision. Mais c'était aussi un endroit avec les musées les plus incroyables, les plus importants. C'était une ville qui attirait toutes les parties les plus importantes du monde de l'art. Les artistes, bien sûr, mais les grands musées, mais les plus grandes histoires de collection, les collectionneurs. Et ça faisait partie de mon éducation, la façon dont la France avait accueilli cette partie tellement importante du monde de l'art, les collectionneurs, les artistes, les directeurs de musées, ou les conservateurs. C'était vraiment, ça a transformé Paris en une ville de rêve. Et pour moi, ce n'était pas vraiment une décision très difficile, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait approcher cette attente que Paris pouvait fournir.
Alors il y a un secret dans les installations des galeries, c'est qu'elles ont des quartiers, ce qui d'ailleurs fait leur force. Vous, vous êtes installé dans le Haut-Marais, rue de Bellême, enfin ce qu'on appelle maintenant le Haut-Marais. Il y a eu en France à une époque, c'est probablement au moment où vous êtes arrivé, la grande explosion de la rue Louise Weiss qui était à côté de la Bibliothèque nationale, ce nouveau quartier. On nous racontait la rue Louise Weiss va être le quartier pour l'avenir et forever des galeries d'art. Et puis tout ça s'est effondré et on est revenu, sauf erreur, vers le Haut-Marais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, tout d'un coup, il y a un quartier qui cristallise les envies de tout le monde de s'y établir ?
Well, we're talking about critical mass, and this is
a phenomenon.
On
parle de la critique de masse. L'Amérique, c'est le meilleur exemple. Les Américains sont très rapides, ils peuvent créer un endroit, et les artistes sont ceux qui sont les premiers, quelque part. Les artistes décident d'aller dans un endroit précis, et puis peut-être parce que les prix sont raisonnables, c'est pas trop cher, les galeries y viennent, et ensuite, cet endroit devient très branché, très recherché, et parfois les artistes doivent déménager pour aller ailleurs. Et New York, c'est le meilleur exemple. Soho a été créé d'abord pour les artistes, puis les galeries sont arrivées, et puis les artistes ont dû passer à Chelsea, et puis les galeries ont suivi, et puis les artistes sont passés à Brooklyn, et les galeries ont suivi. Et les artistes cherchent continuellement des nouveaux endroits, parce que partout où ils vont, les prix montent et d'autres gens viennent s'y établir et voilà, ça se développe comme ça. Paris n'a pas la même vitesse de développement, mais ça a le même système, le même modèle. Le 6e arrondissement, c'était là que se trouvaient toutes les galeries d'art. Iliana Sonnabend avait son espace, toutes les galeries de légende étaient là-bas, étaient à Saint-Germain. Et à un moment, au même moment où le centre Pompidou s'est ouvert, le Marais est devenu l'endroit, avec un majuscule. Et d'abord, les artistes ont pu aller là-bas, ils ont trouvé des studios merveilleux, rue de Turenne, rue du Temple, et puis les galeries ont commencé à s'y installer. Donc pour moi, quand j'ai décidé de réfléchir à Paris, il était clair qu'il fallait aller au Marais. Parce que c'est là qu'était le nouveau centre, qui avait sa propre dynamique. Et c'était le centre Pompidou qui a renforcé cette tendance. Et il y avait aussi des collègues qui étaient déjà là, que j'appréciais beaucoup. Et j'ai senti que c'est là que je voulais ajouter ce que je pouvais apporter.
Nous allons maintenant entendre un entretien avec Pierre Matisse, qui a eu une expérience semblable à celle de Tadeusz Ropak. Le fils d'Henri Matisse a en effet quitté son pays pour ouvrir une galerie à New York. Il parle là à l'occasion d'une exposition Giacometti dans sa galerie en 1948. Et c'est extrait de l'émission Giacometti, une quête sans fin, du 29 octobre 1969.
C'était après la guerre, quand j'ai repris contact avec lui, que j'avais connu en 1936. Et que je lui ai demandé de faire une sculpture demi-grandeur naturelle qui était à peu près la même dimension que la sculpture que lui avait achetée avant la guerre. Et comme la fonte d'une telle œuvre était une dépense assez élevée, je lui avais offert de m'en charger. Après cette figure, il en a fait plusieurs autres, et devant son intérêt et le nombre de figures, grandeur nature également, qui commençaient à meubler son atelier, m'est venue l'idée de l'exposition. Mais nous n'avons pas pu faire toutes les fontes que nous aurions voulu. Les œuvres en plâtre n'étaient pas toujours terminées, comme c'était toujours le cas avec Giacometti. Et seulement un tiers de l'exposition a pu être fondue. Le reste était des figures en plâtre, des bustes, qui, miraculeusement, sont arrivés sans aucun dégât. Cette exposition a créé une grande impression à New York, surtout parmi les artistes, et également dans le grand public, qui en a été averti par les critiques qui ont paru dans les journaux.
Est-ce que vous vous rappelez quelques-unes des réactions des critiques ou des artistes à New York en découvrant Giacometti ?
La réaction la plus importante a été surtout chez les artistes, et cette réaction s'est répandue un petit peu comme une traînée de feu, à la suite de laquelle les musées se sont intéressés et la sculpture de l'homme au doigt, ou l'homme qui montre, grandeur nature, a été acquise par des trustees du musée d'art moderne.
Tadeusz Ropak, après la rue de Bellem dont vous parliez, vous avez ouvert plus récemment, en 2012, dans un endroit étonnant qui est à Pantin, je crois que c'est une ancienne usine, qui représente une énorme surface d'exposition, 2000 mètres carrés sauf erreur. D'une part, pourquoi êtes-vous allé aussi loin, si on peut dire que Pantin est si loin? Et d'autre part, pourquoi aussi grand? Est-ce que c'est dû tout simplement au fait que les artistes font des installations qu'on ne peut pas montrer dans des petits espaces au centre de Paris?
Après avoir travaillé de nombreuses années de façon très réussie dans le Marais, on a fait quelques expositions de légende historique. Et pour suivre la vision de nos artistes, nous avons senti que on était parvenu vraiment aux limites. Avec une exposition de Gramley, dont les sculptures pesaient plusieurs tonnes et on ne pouvait même pas les faire rentrer dans ces espaces-là. On avait une exposition avec Kiefer, qui nous a donné trois tableaux qui pouvaient à peine rentrer dans cet espace. Et donc, même si ma galerie dans le Marais est une des plus grandes de Paris en taille, mais la vision de nos artistes vraiment est au-delà de cet espace-là. Et tout d'abord, on a pensé, on cherchait quelque chose dans la... tout à fait à côté. On a déjà 1000 mètres carrés rue de Bellem, parce qu'on a 4 étages là-bas. Et puis, on voulait ajouter quelque chose comme 2 ou 3 000 mètres carrés. On ne pouvait pas trouver ça dans le Marais. Il n'y a aucun moyen de trouver un espace aussi grand. Donc la seule façon, c'était d'aller dans un endroit et peut-être créer un nouvel endroit. Et en réfléchissant à ce gros risque qu'on prenait, j'ai dit qu'on pouvait le faire. On travaille avec un groupe d'artistes qui nous ont suivis. Les gens qui vraiment iraient au-delà de ce qu'ils créent d'ordinaire. Et je n'étais pas opposé à l'idée d'aller au-delà du périphérique de Paris. Mais je ne serais pas allé plus loin parce que je pense que c'est très important d'avoir une connexion avec le métro. Je crois au grand public. Je pense qu'il ne faut pas créer une galerie simplement pour quelques collectionneurs privilégiés, des gens qui viendraient avec leur voiture ou leur chauffeur, mais d'avoir des expositions qui seraient vues par beaucoup de gens. Donc c'était très important que chaque espace que l'on prenne en considération, on a pris vraiment beaucoup, on a beaucoup regardé, mais on ne voulait pas les prendre parce qu'il n'y aurait pas d'accès pour le grand public. Et un jour, j'ai entendu parler de cet endroit à Pantin, 8 bâtiments. Je dis, mon Dieu, c'est peut-être un peu trop grand. J'y suis allé, c'était vraiment en ruine, il pleuvait. J'ai senti que cet espace avait tellement de potentiel et que c'était vraiment un espace rêvé pour y travailler. Et j'ai appelé Anselm Kiefer, qui est à Paris, je lui ai demandé s'il pouvait venir. Je voulais lui montrer quelque chose. Il y est rentré, il pleuvait encore, c'était encore en ruine. Mais il n'y a même pas eu besoin de beaucoup parler. Et on s'est dit, oui, ça pourrait être vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Les espaces limités, ça a toujours été quelque chose qui restreignait ces artistes. Et Pantin, vraiment, ça va au-delà de ces limites. Et c'est vraiment ce que je voulais faire.
Alors Tadeusz Ropak, vous venez de parler du grand public et des galeries qui doivent être fréquentées par beaucoup de gens et pas être exclusives, mais en même temps vous vivez des collectionneurs, c'est bien normal, vous êtes un commerce. Et on sait aussi que les collectionneurs n'entrent pas nécessairement dans les galeries, il faut aller les chercher. Donc comment est-ce que vous allez les chercher? Et est-ce qu'au fond, un des secrets des galeries n'est pas que leurs expositions, ça sent une espèce de cover-up et que les vraies choses sont vendues à côté dans vos dépôts? Par exemple, les galeries ont des dépôts comme les grands musées, et ça, le grand public ne le sait pas. Les grands collectionneurs n'entrent pas dans une boutique comme la vôtre.
Les grands collectionneurs, les plus importants, veulent faire partie d'un mouvement, d'une dynamique. Il est très important. Les galeries sont un endroit où les artistes parlent, débattent, discutent. C'est pas vrai que les collectionneurs ne veulent aller que dans les endroits cachés, trouver des choses que personne d'autre ne verrait. Je pense que les collectionneurs veulent faire partie de ce débat, voir un public plus large, voir d'autres artistes, comment ils réagissent à l'art. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup changé aussi. Et je dis toujours, quand je sens que, quand je dis qu'on a quitté la tour d'ivoire de l'art, l'art doit être au centre du débat. Et beaucoup des grands collectionneurs veulent faire partie de ce débat. Bien sûr, il y a toujours un espace où il faut montrer certaines œuvres à certains collectionneurs. J'ai ça dans le Marais, où on a des salles d'exposition privées. On a ça évidemment à Pantin, un espace pour des visions privées, entre guillemets. On peut montrer des travaux dans un environnement plus tranquille. Quelqu'un peut là s'asseoir et regarder, parce que tous les samedi, on a 300 visiteurs au moins à Pantin.
Alors, nous parlons d'art, mais il faut aussi parler d'argent. Et vous avez dit vous-même tout à l'heure, Tadeusz Ropak, en parlant de l'époque où vous avez débuté, que les prix étaient moins importants et que les prix sont devenus énormes. Mais vous êtes un de ceux qui font que les prix sont devenus énormes. C'est vous qui fixez les prix. Vous êtes galeriste, donc ce n'est pas une chose qui est arrivée, qui vous a été imposée. Comment est-ce qu'un prix se fixe? Et est-ce qu'il y a la moindre espèce de rationalité dans la fixation d'un prix d'œuvre d'art à partir d'un certain niveau? Qu'est-ce qui fait que vous décidez, alors j'imagine que vous le décidez avec l'artiste, vous allez me le dire, qu'est-ce qui fait que vous décidez qu'une œuvre d'art qui entre chez vous vaudra plutôt 50 000 euros plutôt que 150 000? Parce qu'au fond, quelle est la raison, la rationalité là-dedans? Comment est-ce qu'un prix se fixe?
Il y a différentes manières de le considérer. Nous avons diverses générations d'artistes avec lesquelles on fonctionne. Vous avez des artistes faits, des artistes à la mi-carrière, des artistes qui sont déjà très célèbres dans tous les musées. Donc si on commence avec un artiste jeune, vous savez, c'est ça que les galeristes doivent vraiment développer, nourrir.
On regarde les différentes tendances.
Tout d'abord, combien produit-il? Est-ce qu'il produit beaucoup? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur le marché. Les prix au départ peuvent être un peu plus bas. Si un artiste ne peut faire que 3 ou 4 œuvres par an, parce qu'il travaille d'une manière qui ne permet pas d'en faire plus, là, à ce moment-là, il faut réfléchir à un prix plus élevé, parce que les œuvres sont plus précieuses en raison du nombre limité d'œuvres qu'ils produisent. Donc, ce sont certains éléments qu'il faut prendre en considération. Mais en général, on essaie de commencer avec un artiste qui est totalement inconnu, avec des prix très fondamentaux, très basiques, moins de 10 000 euros, moins de 2 000 euros par exemple pour un dessin, entre 10 et 15 000 euros pour une sculpture, parce qu'il y a des prix de production qui sont très élevés. Et on tente de présenter ces artistes tout d'abord à un groupe d'experts, c'est-à-dire directeurs de musées, des conservateurs, des écrivains, des critiques d'art et un nombre sélectionné de collectionneurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont l'œil pour voir l'avant-garde. Et on commence ce débat. Pas avec tous, mais avec un, puis un, on les amène au studio.
prizes for young artists.
Il y a beaucoup de prix différents pour les jeunes artistes, décernés par des académies, des fondations. Ces artistes reçoivent un premier prix, donc c'est une première reconnaissance. Et cela construit les carrières. Quand je réfléchis, quand je pense à des jeunes artistes français, Claire Adelfan, eh bien, je l'ai rencontrée quand elle était encore à l'école des Beaux-Arts. Et elle a reçu un des prix quand elle était à sa dernière année d'études. Et après, elle a été remarquée par certains conservateurs auxquels elle a été présentée et qui ont réalisé des expositions à Marseille, à Paris. Et les premiers collectionneurs ont regardé ses œuvres et ont commencé à acheter.
She's a photographer.
Elle est photographe.
She has worked in an edition of several. So we have
placed the price in. On a mis les prix dans une fourchette assez basse, de 3 000 euros.
And collectors, you know,
et les collectionneurs pouvaient facilement prendre ce risque et de regarder les choses de façon plus sérieuse et d'acheter les œuvres.
Pour finir, Tadeusz Ropak, je voudrais vous demander. À qui s'adresse un marchand d'art contemporain comme vous ? Car, d'après ce que vous me dites, malgré tout, les prix sont assez chers et on sait qu'il a disparu une catégorie d'acheteurs qui achetaient très traditionnellement en Europe, qui étaient les classes moyennes, les médecins, les avocats, des gens comme ça. Et ces gens-là n'ont plus les moyens d'acheter chez vous, par exemple, parce que 20 000 euros, 30 000 euros, c'est malgré tout probablement au-delà de leur capacité. Donc on a l'impression qu'il y a une catégorie d'acheteurs qui ne peut plus aller vers l'art contemporain parce que c'est trop cher. Est-ce que je me trompe ou pas ? Et deuxièmement, on a l'impression que aussi, parfois, les galeries, et c'est peut-être aussi là où elles s'inscrivent dans l'histoire de l'art, elles visent le musée. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des pièces qui sont dans des grandes galeries pour personne, à part le musée. Est-ce que je me trompe en disant qu'au fond, le vrai secret, c'est ça, c'est que vous voulez vous insérer dans l'histoire de l'art en arrivant dans le musée, et que c'est ça le triomphe d'un marchand d'art ?
Of course, I think there's no way
to follow an artist and create a career. Aucune possibilité de suivre un artiste, faire une carrière, si les musées n'en font pas partie. Les musées, c'est eux qui donnent le sceau d'approbation au final. Au début, ce sont des petits musées qui aident les artistes, et puis après, des musées sans collection, qui ne sont pas capables de collectionner, mais qui font des expositions. Donc il y a beaucoup d'espaces qui ont une fonction excessivement importante à aider les jeunes artistes à faire leur carrière. Les collectionneurs sont d'une partie extrêmement importante au début. Beaucoup sont très très sur le devant de la scène. Certains sont plus rapides.
Can you know really create a career?
Et ils peuvent créer les carrières d'artistes. Mais plus rien n'est national désormais. Tout est international. Et pour tout artiste, c'est très important que l'artiste soit reconnu à l'échelle internationale. Vous savez, il y a très très peu de collections nationales ou de suivi national de l'art. Tout doit être reconnu à l'échelle internationale. Donc,
c'est ça,
c'est là où les artistes sont débattus, où les gens se réunissent pour voir de l'art, et c'est là qu'on construit cette notoriété. Pour nous, c'est un terrain compliqué, parce qu'il faut travailler vraiment de manière très internationale. Moi, je travaille avec une équipe de 60 personnes à la galerie, parce qu'on doit être présent à travers le monde entier. Il faut avoir une présence en Asie, en Amérique, le Moyen-Orient arrive très très vite sur ce marché, construit d'ailleurs ses propres musées très importants. Et il y a toujours l'Amérique et l'Europe. Mais tout cela ensemble construit ce monde de l'art. Et toutes les grandes galeries d'aujourd'hui doivent être actives sur tous ces marchés. Et c'est ce que nous devons à nos artistes. Et tout ça ensemble, ça crée ce marché. On ne peut pas construire la carrière d'un artiste à l'échelle nationale, parce que ça n'existe plus.
Tadeusz Ropak, j'ai une dernière question à laquelle je voudrais que vous me répondiez par deux mots, c'est un prénom et un nom. C'est quel est le jeune ou la jeune artiste dont vous vous occupez maintenant et dont vous espérez que dans 20 ans, ça sera un grand artiste ?
The youngest artist we just signed up in the gallery,
on vient de signer à la galerie.
Oliver Pear. He's English and he works in performance and sound.
Il est anglais, il travaille dans le son et la performance.
C'était Secret Professionnel, le 126e. réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Olivier Dupré, traduction Michel Zlotowski. Dans un instant, Ville Monde.